Radio Galilée vous propose à l'instant le Carême 2023. Un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe, prêtre et président émérite de l'Académie catholique de France, qui nous livre ses réflexions sur le thème « L'heure vient ».
Père Philippe Capel-Dumont, nous sommes toujours ensemble à vivre ce carême. J'aimerais ça que vous nous parliez de la manière dont Jésus accomplit la volonté de son Père dans le cycle des tentations. On a vu les trois tentations. Comment cela peut-il nous conforter?
Oui, alors je vais répondre à votre question, mais je vais faire une remarque préliminaire pour bien comprendre. Parce que dans ces récits de la tentation, comme dans les récits de la Passion, Jésus répond toujours en citant l'Écriture.
Oui.
C'est toujours comme cela,
oui.
À chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole improvisée, et à chaque fois, il répond en donnant le sens de son comportement, de son geste, en s'appuyant sur l'Écriture. Alors, pourquoi? Ça vaut pour la Passion. Si vous relisez la Passion en détail, vous verrez qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, il fait une citation de l'Écriture. Pourquoi? Parce que Jésus accomplit les Écritures. Il est là pour accomplir les Écritures, non pas pour donner une opinion personnelle, subjective, dans l'humeur du moment. Mais sa vie, tout son être, se dit dans l'accomplissement des Écritures. Et c'est ce qui se passe dans les réponses qu'il donne à chaque fois au Satan, dans les trois réponses qu'on a déjà citées. Hein. La première, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole de l'Écriture. Tu mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est aussi une réponse de l'Écriture. On retrouve aussi une citation du Deutéronome. Vous ne tenterez point Yahvé. Donc, à chaque fois, il s'agit de dire que ce que je fais est une manière d'attester que le Messie est venu. Voilà. Donc, alors, on peut entrer dans le détail de ces trois réponses. Simplement, on voit bien que à chaque fois, il s'agit d'entrer dans une relation saine avec Dieu. Hein. Donc, la toute première, il s'agit tout simplement de dire, nous en avions parlé hier, que la parole de Dieu est au-delà de tout ingrédient humain. Donc il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu. Il faut s'en nourrir. C'est dans l'Deutéronome, d'ailleurs, on a cette idée. La parole de Dieu est dans ta bouche. Hein. Elle est dans ton cœur, c'est-à-dire qu'elle est dans ton corps. Ce n'est pas simplement une parole intellectuelle. Donc il faut se nourrir de la parole de Dieu. On mange la parole. Hein. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est très fidèle, lui qui connaissait parfaitement la Torah, est très fidèle à l'esprit de la Torah. La seconde réponse que nous entendons, c'est « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », tu ne le tenteras pas? Pourquoi? Parce que vouloir tenter Dieu, c'est un signe d'incrédulité. C'est-à-dire qu'on ne croit pas ce qu'il nous dit. On ne croit pas en sa parole. Donc on le met à l'épreuve pour lui demander de vérifier. Et donc, de demander à Dieu « Si tu es Dieu, fais ceci », on est sur la piste de l'incrédulité. On ne met pas Dieu au pied du mur. Hein. Donc, là, encore une fois, ce serait une manière de vouloir s'approprier, s'accaparer, posséder le secret du geste de Dieu. On ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qui motive Dieu. Laissons Dieu à Dieu. Un peu comme disait Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Et il n'y a que lui qui puisse répondre du motif de son geste. Puis enfin, le tout dernier, c'est devant Dieu que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu auras. Bon, là, vous aurez reconnu les premières paroles du Décalogue. Hein. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et donc, on a là l'essentiel qui est dit. Hein. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et on trouve aussi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, dans le Deutéronome, chapitre 6. Bon, ce sont des paroles contre l'idolâtrie. Donc on comprend bien que sa dernière réponse, elle est en réalité véritablement la réponse ultime face à ce qui a été le reniement du peuple Israël dans le désert, hein, c'est-à-dire le veau d'or. Et donc Jésus, c'est le contraire, c'est l'antithèse. Hein. Alors, s'il fallait simplement en tirer un suc un effet pour ce temps. Nous pourrions reprendre ces trois réponses pour bien vérifier qu'en fait nous sommes véritablement dans le péché d'Israël nous-mêmes encore aujourd'hui. Hein. Nous ne cessons de reléguer la parole de Dieu qui est simplement une opinion parmi d'autres. Enfin, dans les sociétés sécularisées, la parole évangélique n'est qu'une opinion parmi d'autres. Bon, quel est le sens que nous accordons à la parole qui nous nourrit intimement? Qu'en fait-on? Que font les chrétiens? Est-ce que la parole de Dieu a un statut équivalent à toute autre parole publique? Ou est-ce que nous lui réservons un statut différencié, voire supérieur? Ça, c'est une vraie question. Quand nous entrons dans une église et que nous écoutons l'évangile, quelle dignité nous accordons à cette parole dans le flux des paroles médiatiques que nous entendons? Ça, c'est la première chose. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, c'est la porte d'entrée du doute. Alors, j'attire mon attention sur un point, si vous voulez, à ce moment précis. Car j'ai observé que nous confondons très souvent le doute et la question. Très souvent, nous disons volontiers, les chrétiens disent volontiers, il est normal de douter. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière de répondre. Ce qui est tout à fait normal, c'est de questionner, hein, de s'interroger. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a que des questions. Dans le psaume « Où est-il ton Dieu ?», on me le demande. Job interroge Dieu. La question est légitime. Il s'agit d'interroger Dieu pour comprendre. Mais le doute a ceci de particulier, c'est qu'il interrompt la relation. On doute de la personne, donc on ne lui parle plus. Et c'est pourquoi j'y reviendrai peut-être dans une autre un peu plus tard, parce que Jésus n'a pas douté précisément, mais il interroge son Père. Et donc, le « tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », c'est entrer dans le doute à l'égard de Dieu. En revanche, la question est tout à fait autorisée. Et je crains que dans la circulation de la parole à l'intérieur de l'Église ou du christianisme, quelquefois on confonde les deux, faisant comme si le doute était naturel. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il m'est arrivé d'entendre la question quelquefois, « Avez-vous déjà douté, mon père ?» Je réponds, « Je n'ai jamais douté. » On dit, « Ah bon, mais c'est possible. Mais vous ne vous posez jamais de questions. Mais je ne fais que ça. » Je me pose des questions sans cesse, mais je ne doute pas. Parce que la question, elle est posée dans le cadre d'une relation à Dieu. Voilà. Et je sais que la question elle-même va être transformée dans la relation à Dieu. Qui suis-je pour poser des questions pertinentes à Dieu? Je ne pose que des questions à la mesure de ma pauvre humanité. Si j'entre dans le doute, je considère que ma question est beaucoup plus honorable que ce que Dieu peut m'inspirer dans sa relation. Donc, non, je dis ça sans... comment dire, sans arrogance ou sans gloire, mais je n'ai jamais, en ce qui me concerne, douté du tout. Et je crois que ce n'est pas nécessaire de douter. Alors si quelqu'un doute, bien sûr, on l'accueille, si quelqu'un se sent dans le doute, je ne peux que comprendre, nous ne pouvons que comprendre dans la situation où nous sommes. Mais le doute n'est pas une nécessité inscrite dans la démarche de foi. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est... tu te prosterneras devant Dieu. Eh bien, c'est le régime des idoles qui se multiplie aujourd'hui. On peut dire qu'on est aujourd'hui, non pas simplement comme on a pu le dire, dans un régime polythéiste, mais un régime polyidolatrique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne cesse de fabriquer des idoles et pas seulement de les adorer. La dernière en date, c'est le transhumanisme. La croyance illusoire que nous avons de penser que nous pourrons maîtriser, y compris notre mort. Nous sommes dans l'idolâtrie la plus totale. Donc, l'opération vérité consisterait ici, à la lumière de cette réponse de Jésus, d'identifier tous les registres d'idolâtrie sur lesquels nous voguons, sans parfois nous en rendre compte, que ce soit dans le monde politique, le monde commercial, même le monde des idées. Nous idolâtrons parfois nos concepts, nos idées, nos axiomes. Nous considérons que ce sont véritablement des hypostases, enfin quasiment divinisées, alors qu'elles ne sont que relatives à celui, justement, du seul Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une manière toujours de dire non à l'idole. Je crois en un seul Dieu, et non pas en d'autres dieux, hein, qui sont l'expression de la demande anthropomorphique de l'homme. Et donc, je crois en un seul Dieu, je refuse les idoles. Donc, voilà les trois réponses que Jésus fait, et voilà les trois réponses que Jésus faisant nous inspire, et nous inspire, je crois, dans le contexte qui est le nôtre. Elles n'ont pas pris une ride, ces réponses de Jésus.
Vous venez d'entendre le Carême 2023, un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe et prêtre.